En entendant ces paroles, nous pouvons nous dire, elle nous est donnée en ce temps de carême pour nous montrer à nous le but de ce voyage. Hein. Après le carême, c'est bien sûr la Pâque, la résurrection, qui est déjà symbolisée par cette transfiguration de Jésus. Et donc c'est vrai, c'est une parole qui nous encourage à avancer hein, dans notre cheminement, qui peut-être parfois est un peu rude. Il y a des efforts qu'on a décidé de faire et qu'on a du mal à tenir, hein, n'est-ce pas? Si on a pris des décisions, enfin, pour faire des efforts. Sinon, ben, il n'est pas trop tard, hein. Il faut quand même commencer dans ce déjà deuxième dimanche de carême. Et donc, du coup, voilà, une parole comme celle-ci nous encourage. Et puis, c'est vrai, on peut se dire aussi que Jésus voulait faire part, oui, de cette expérience à ses apôtres, Pierre, Jacques et Jean, pour cela, pour les encourager. Et puis, les pères de l'Église le disent clairement, ils avaient besoin d'être préparés pour les moments de la passion qu'il allait vivre, afin qu'il puisse y rester fidèle, en pensant que ben, finalement Jésus, oui, il allait ressusciter après toute cette souffrance de la passion. Et nous pouvons accueillir, oui, cet encouragement, bien sûr. Mais nous pouvons le faire, surtout dans la mesure où nous fixons en effet notre regard vers Jésus, car cette transfiguration, elle n'est pas d'abord pour les apôtres, c'est d'abord dans son propre corps qu'il a fait cette expérience, lui. C'était d'abord une grâce que lui, Jésus, en tant qu'homme, a reçue. Et peut-être que nous passons un peu vite sur cela, parfois. On ne prend pas le temps de se dire que la transfiguration, c'est d'abord vraiment un privilège pour Jésus lui-même, que Dieu, le Père, a voulu lui donner. Cette voix qui vient du ciel, des nuées, dit le texte, dit saint Matthieu, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Vous rappelez quoi? Le Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Est-ce qu'on a entendu ailleurs cette phrase, cette parole? À quel moment? Exactement. C'était le baptême. Le jour même du baptême, une voix qui vient du ciel et qui fait cette déclaration, je dirais publique, officielle, qui est peut-être la première parole du Père, hein, qui se fait entendre ainsi. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Et la même parole, voilà, revient là, à la transfiguration. Pourquoi? Et bien sûr, parce que Jésus lui-même avait besoin d'être confirmé et fortifié intérieurement par le Père lui-même, en fait. Peu de temps avant, donc, cette transfiguration a lieu. Et elle nous est décrite au chapitre 17. Mais au chapitre 16, il y avait cette confession de foi de saint Pierre, hein, « Tu es le Christ, tu es le Messie, le Fils du vivant. » Et juste après, Jésus annonce sa passion et Pierre lui dit « Non, ce n'est pas possible que tu souffres. » Et Jésus lui dit quoi ?« Va derrière moi, Satan. » Il vit comme une tentation qui passe par la bouche de Pierre. Il est tenté. Et cela nous rappelle, bien sûr, les tentations dans le désert qui ont lieu, justement, immédiatement après le baptême. Et les paroles du démon hein, qu'on a entendu dimanche dernier, d'ailleurs dans l'Évangile, hein, c'était quoi? Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, fais que ces pierres deviennent pierres, jette-toi, enfin, vous rappelez les tentations. C'est étonnant, n'est-ce pas, d'entendre ce même mot, fils de Dieu. C'est comme si, voilà, l'esprit mauvais veut attaquer Jésus dans ce qui a le plus important, dans son identité. C'est comme s'il voulait lui dire, juste après le baptême, ben oui, t'as entendu cette voix du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé, tu y crois vraiment, toi? Tu crois que c'est Dieu le Père qui t'a parlé, là? Tu crois qu'il t'aime vraiment? Et tu penses que tu es vraiment son fils? Ben montre-le. Une tentation terrible, hein? Bien sûr que nous pensons aux tentations dans notre vie à nous, sur tel ou tel point, voilà, sur l'orgueil, le pouvoir, la domination, etc. Mais peut-être nous oublions cela, en fait. Que l'esprit mauvais, qu'est-ce qu'il veut faire? Il va nous couper, justement, de ce Père, hein, qui nous dit à nous aussi, tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée. Et parfois, cette tentation de penser qu'il nous a oubliés, et que peut-être, ben, il ne s'occupe pas vraiment de nous. Ben, c'est une tentation terrible qui peut aller très loin. Hein. Et dans le cas de Jésus, on va entendre dans quelques semaines que ben, cette même parole va revenir quand il est justement sur la croix. Hein. Et d'ailleurs, Saint-Luc, si je ne me trompe pas, dit qu'au moment où Jésus était tenté dans le désert, à la fin, le diable l'a quitté pour un certain temps. Et voilà qu'il apparaît d'une manière mystérieuse et puis dissimulée, jusqu'en il est sur la croix. Et saint Matthieu, eh bien, prend soin de nous dire à plusieurs reprises, en fait, qu'en étant sur la croix, Jésus entend de nouveau cette tentation-là. De la part de ceux qui étaient là devant, qui passaient, et je vais me permettre de vous citer, hein, si vous voulez bien, ce que les passants d'abord, ensuite les scribes, et puis les autres, disaient en le voyant sur la croix. Premièrement, les passants qui sont là, et qui voient Jésus sur la croix en souffrance, Et c'est à ce moment-là qu'il l'injuriait en hochant la tête. C'est dans le chapitre 27. Il disait, « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. » Et descend de la croix. De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant, « Il en a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Hein. » Il est roi d'Israël qui descend de la croix maintenant et nous croirons en lui. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Les bandits crucifiés l'insultaient de la même manière. Une tentation qui revient, voyez. Est-ce que tu es vraiment le fils du Père? Du coup, ben, si tu l'es, ben, sauve-toi toi-même. Parce que tu es tout puissant. Or, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Eh bien, justement, lui, en tant que fils du Père, comment il repousse toutes ces tentations qui le touchent dans son identité même, dans son être profond? Eh bien, il se soumet au Père, justement. Et on voit bien dans le désert où il fait toujours appel à la parole de Dieu. Dans la Bible, il est écrit ceci, cela. En repoussant Satan. Hein. Pourquoi? Parce qu'il dit, ben, dans l'Écriture, j'ai la parole de mon Père. C'est lui, c'est à lui que je fais confiance. Et puis de même qu'ici, dans ce moment de la transfiguration, le texte nous dit qu'il était en train de parler avec Moïse et Élie. Et Moïse et Élie représentent justement la Bible, hein, l'Ancien Testament. Il est en train de découvrir dans cette parole de Dieu ben, sa propre volonté. C'est-à-dire ce désir profond qui jaillit de son cœur. Il se remet totalement à lui. Et à la croix, comment il va répondre à cette tentation? Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. des paroles encore tirées des psaumes, une prière de confiance. Eh bien, le Seigneur nous rappelle ainsi qu'en fait, il a voulu reprendre toute l'histoire de ce peuple qui a commencé avec Abraham, nous l'avons entendu dans la première lecture, cet Abraham qui a répondu à l'appel de Dieu, le demandant de tout quitter pour se laisser guider que par lui, pour accueillir cette bénédiction qui va au-delà de toute attente. Eh bien, Abraham, l'homme de foi, eh bien voilà, c'était le modèle de Jésus, en fait. Et puis aussi, dans la deuxième lecture, nous avons entendu comment cette vocation de se donner totalement à Dieu a été d'abord accomplie par Jésus. Et c'est pour cela que nous avons tout intérêt, durant ce temps de carême, de garder nos yeux sur lui pour le laisser nous apprendre comment on a à accueillir d'abord notre propre identité de fils, fille de Dieu, enfant, reconnaître vraiment cela et nous rendre compte, faire un discernement chaque fois quand quelqu'un veut nous faire croire autre chose, quoi, hein, nous déstabiliser, nous attaquer, se moquer de nous d'une manière ou d'une autre. Vous êtes cathos, enfin ça sert à rien, et puis regardez, ça fait que du mal. Bon, on a des tentations comme ça souvent, hein. Et du coup on a parfois peur en fait de s'afficher, comme on dit, hein, de chrétien, quoi. Bon, peut-être moi, les sœurs, nos chères sœurs de la Visitation, elles n'ont pas peur de dire qu'elles sont religieuses et qu'elles aiment beaucoup Jésus, n'est-ce pas? Parce qu'elles sont d'ailleurs les filles bien-aimées de ce Père, plein de bonté. Et bien voilà un exemple. Et puis il y en a combien d'autres encore, des frères, des sœurs qui souffrent aujourd'hui, mais qui ne renoncent pas à cette identité, vous voyez, cette appartenance au Père, qui est le témoignage le plus simple, mais en même temps le plus fort dont le monde a besoin. Eh bien, c'est Jésus qui nous donne cette force intérieure en nous invitant à nous tourner vers lui, vers ce Père, hein, que nous appelons ainsi, et dans quelques instants, on va prier ensemble cette prière laissée par Jésus, afin que notre relation avec lui soit de plus en plus forte. Et que si nous avons des efforts de carême à faire, eh bien, que tout ce que nous vivons nous aide à nous approcher, nous lier plus encore avec lui, avec notre Père des cieux, qui est là, qui nous fortifie, particulièrement par sa parole. Gardons quelques instants de silence et remettons-nous tels que nous sommes entre les mains du Seigneur. Essayons d'entrer dans le cœur même de Jésus qui est là et qui veut nous communiquer tout cet amour qui vient justement du cœur même du Père. Amen.